Je vais tout de suite ajouter le sous-titre donc au titre de ma présentation. Donc c'est la tentative du remake en littérature. Donc voilà. Donc ça sera. Je vais arriver à une lecture de Patrick Châtelier, Pas le bon, pas le truand, qui a été publié en 2010, qui est un bon, vous verrez également ma compréhension et mon usage du mot remake et du concept de remake, puisqu'il s'agit, on pourrait dire, d'un remake littéraire, pas une novélisation, je vais quand même faire la différence, d'une scène de 9 minutes du film Le Bon, la Brute et le Truand. Donc c'est l'arrivée de la Brute, je ne sais pas si vous l'avez en tête, avec Lee Van Cleef, une scène archi connue, hein. Donc, qu'il reprend sur une centaine de pages à peu près, développe, étire la scène, la ralentit pour tout voir dans la scène, ou à peu près. Donc, la notion de lui, on est près de quelque chose, un remake, mais vous allez voir dans quel sens je vais en parler. Avant d'arriver à cette analyse, où on va lire véritablement des extraits, je vais quand même parler de mon projet ciné-fiction, ce que j'entends par la ciné-fiction, ce rapport performatif de la littérature au cinéma. Donc, il va y avoir donc une première partie de ma présentation, donc sera une introduction donc à ce travail de recherche, les bases, d'où me viennent ces idées, comment c'est un nouveau travail également qui se positionne par rapport à d'autres travaux sur le cinéma et le rapport entre le cinéma et la littérature. C'est aussi un travail texte-image, bien entendu, que je fais. Texte-image en mouvement, ici, plus spécifiquement. Donc, il va avoir un côté plus théorique, je dirais, au départ, pour ensuite en arriver à une analyse, puisque dans une analyse là, assez concrète d'extrait. Du livre, du récit de Châtelier, puisqu'il y a ces deux composantes dans mon projet de recherche ciné-fiction. Il y a cette composante théorique que j'aime, hein, que j'aime beaucoup développer, donc, et qui peut avoir je dirais, des prolongements ailleurs même que dans les études entre la littérature et le cinéma, à mon avis, qui est branché sur tout un autre réseau, ce que je pourrais appeler, je vais l'aborder à la toute fin, l'archéologie du visuel, tout ça. Donc, je travaille d'un point de vue théorique, sémiotique aussi, ces notions-là, quoique je ne voudrais pas trop prendre trop de place avec la théorie et arriver plus à l'analyse, puisque mon projet de recherche développe également des analyses, véritablement des lectures et des analyses de textes. J'arrive à cela et j'y aspire de plus en plus également. Donc, laisser beaucoup de place à ces analyses de textes et laisser le temps, hein, de voir véritablement, de travailler, hein, ce que je vais appeler un peu plus loin avec Sébastien Rongier, la cinématière dans la littérature. Voilà. Donc voilà le programme. Je vais essayer de faire assez, pas trop long, mais quand même d'être assez précis sur les objectifs et les orientations de ma recherche pour que vous compreniez un peu mieux aussi le genre de lecture que je fais, que je vais proposer du livre de Patrick Châtelier. C'est mon projet de recherche ciné-fiction. C'est un projet de recherche donc, qui étudie les rapports, ce que j'ai appelé les rapports performatifs de la littérature au cinéma, donc dans un sens, hein, seulement, pas dans l'autre. Pour moi, j'essaie de caractériser ce rapport-là comme étant un rapport contemporain de la littérature au cinéma. Donc, une partie donc, de ma recherche ciné-fiction repose, hein, sur ce rapport contemporain entre la littérature et le cinéma, hein, se caractériser ce rapport contemporain, puisque ça fait très longtemps que la littérature travaille avec le cinéma, et ça fait très longtemps également qu'on en parle aussi. C'est pas quelque chose de nouveau. Dès 1916, un poète québécois, Marcel Dugas, publiait un recueil de poésie qui s'appelait Psyché au cinéma, en 1916 au Québec, hein, donc ça faisait à peine 10 ans qu'on projetait des films, une quinzaine d'années à peu près à Montréal. Il y avait déjà de la production littéraire qui s'était approprié hein, le cinéma. Bien entendu, le roman américain avec Dos Passos, on peut le voir également dans Dos Passos avec USA, entre autres, qui reprend toute cette entreprise qu'il y avait hein, dans les vues animées à l'époque où on insérait, vous savez, au début, au milieu ou à la fin, ce qu'on appelait les nouvelles. Hein, donc le film était ponctué par des projections des nouvelles. Évidemment, la télé n'existait pas encore, donc on allait voir des films, mais aussi des nouvelles. Il reprend toute cette structure-là de Dos Passos, hein, pour créer là, toute une dynamique narrative assez intéressante. Dans Lolita aussi de Nabokov, il y a des scènes cinématographiques avec très grande ironie de la part de Nabokov. Hein. Il y a une scène de déshabillage du personnage Humbert. Hein, où il a très envie de Lolita sur son lit, donc il fait sauter une scène, la scène où l'homme se déshabille. Il dit comme au cinéma, cette magie du montage où on peut se retrouver tout habillé en une demi-seconde, se retrouver dans le lit à poil. Donc il ironise beaucoup Nabokov avec le cinéma. D'autres exemples qui vous viennent sans doute en tête, près du nouveau roman, Rob Grillet, Claude Simon, Duras aussi, à sa façon, etc., etc. Il y avait même des formes là, très spécifiques dans les années 20 de scénarios. Hein, chez Gallimard, il y avait toute une collection de scénarios. Là. Vraiment, il y avait un rapport dynamique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est contemporain, bien entendu, le rapport de la littérature au cinéma. Même les cinéastes l'avaient entrevu un peu à leur façon. Le cinématisme d'Eisenstein disait que ce cinématisme et les autres arts ont convergé vers le cinéma. Hein. Il y a comme si le cinéma allait entraîner tous les arts derrière lui. Hein. Quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. On en trouve encore des traces chez Malraux dans les années 70, qui parlait plutôt la culture s'en va de plus en plus vers une cinémathèque qu'une bibliothèque. Hein. Donc, ça va être la cinémathèque qui va être la mémoire de la culture plutôt que la bibliothèque. Donc, c'est des trucs qui se sont dit, qui sont connus, qui ont été travaillés, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Donc, évidemment, quand on fait une recherche, et qu'on veut la marquer du sceau d'une contemporanéité, il faut chercher quand même un élément qui va venir un peu se distinguer de tout ce travail plutôt historique, archéologique qui a été fait, entre autres, par Jean Cléder dans son livre Les affinités électives, hein, donc entre le cinéma et la littérature, un ouvrage qui est paru chez Armand Collin en 2014, je crois, ou 2015. Donc, il revient hein, sur toute cette histoire. Donc, quel est ce caractère contemporain qui intéresse ma recherche? Bon, d'abord que on remarque une chose de plus en plus peut-être évidente, c'est que le cinéma, surtout avec l'arrivée du magnétoscope, est de plus en plus partout et non pas uniquement dans une salle de cinéma. Hein. Le cinéma a évolué et s'est, comment je pourrais dire, s'est propagé dans plusieurs autres, comment je pourrais dire, dans d'autres manifestations que proprement celles dans une salle obscure, etc. Hein, donc comment je pourrais dire, cette grande dispersion du cinéma, même dans les arts, évidemment, je vais en parler un peu plus tard. Hein, de ce lien entre les arts et le cinéma, entre autres par les films d'Hitchcock surtout, mais il y a d'autres aussi, d'autres cinéastes, s'est propagé, s'est intensifié. Il y a une intensification qui s'est faite de ce rapport au cinéma. Et l'objet, selon moi, qui caractérise cela, l'arrivée du magnétoscope à la fin des années 70, au début des années 80. Pourquoi? Puisque là, on pouvait voir des films, on pouvait les voir déjà avec du Super 8, 16 mm à la maison. C'est un dispositif plus lourd. C'était véritablement des cinéphiles qui avaient ça. Pas uniquement des cinéphiles. Mon père, j'avais vu des films en Super 8 chez mon père. Mais l'arrivée du magnétoscope intensifie hein, ce rapport au cinéma, puisque c'est de plus en plus facile de voir de films. Et pas uniquement, comment je pourrais dire, faciliter le visionnement de films, mais également toucher quelque chose qu'on ne pouvait pas véritablement faire, toucher aux images cinématographiques, en un sens très précis, c'est-à-dire qu'on pouvait faire arrêt sur image, on pouvait voir des images à reculons, on pouvait évidemment ralentir l'image, et même les magnétoscopes plus sophistiqués pouvaient zoomer sur les images. Là, il y a une proximité, hein, ce que j'ai appelé avec Bertrand dans un séminaire il y a 2 ans, toucher aux images, hein, donc toucher ici par rapport aux images cinématographiques à leur vitesse. Au montage aussi. Le magnétoscope donnait des possibilités de montage qu'on n'avait pas tout à fait avant. Oui, on l'avait puisqu'on pouvait, certains cinéphiles pouvaient remonter des films, les projeter au ralenti avec de la pellicule, mais c'était disons, réservé à des gens qui étaient un peu plus friqués aussi. Ça coûtait quand même assez cher travailler sur de la pellicule et ça demandait aussi des dispositions techniques un peu plus, comment je pourrais dire, c'est un travail un peu plus difficile, travailler sur une pellicule, que travailler sur de la bande magnétique. L'exemple le plus concret de ce que je suis en train de dire, de cette arrivée du magnétoscope qui a donc intensifié notre rapport aux images cinématographiques, c'est l'œuvre de Douglas Gordon en 1993, 24-Hour Psycho, hein, vous connaissez peut-être, qui a ralenti Psycho en 24 heures. Il s'est beaucoup expliqué d'où ça venait, hein, cette idée-là. C'est dans les années 80. Il a expliqué à peu près ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai peut-être repiqué un peu son expérience. Il dit, bon, j'étais chez moi, je voyais des films, et le magnétoscope me permettait de faire plein de choses avec ces films-là, dont les ralentir, bien entendu, les accélérer, etc., etc. Donc, ça a été pour lui, le magnétoscope, une expérience, là, véritable, qui a augmenté cette présence des images, aussi bien d'abord dans son, évidemment, dans son espace domestique, intime, et plus tard, hein, sa création a été nourrie par cette possibilité de toucher aux images cinématographiques. Donc, cette arrivée du magnétoscope, cette intensification du cinéma marque, à mon avis, un rapport contemporain aux images. C'est-à-dire que ce rapport contemporain, ce ne sera pas uniquement, comment je pourrais dire, un rapport de filiation, un rapport métaphorique avec l'image cinématographique. Non, ce que ça caractérise mon projet ciné-fiction, sa contemporanéité, c'est que véritablement, on va toucher, on va travailler ces images-là. Donc, c'est véritablement dans ce sens-là que je caractérise la contemporanéité de ma recherche. Oh, j'ai également basé cette idée, hein, surtout du magnétoscope comme objet technique. Je ne sais pas si vous connaissez les thèses de Gilbert Simonon dans le mode d'existence des objets techniques, c'est un vieux truc des années 58. Ah, il dit des choses assez intéressantes, hein. Il parle de l'ontologie des objets, hein, techniques qui ont bien entendu toute une vie, une histoire, etc. Donc le montage sur pellicule qui se transforme dans un montage sur bande magnétique et à travers donc cet appareil technique qui est l'objet magnétoscope, a une vie propre, hein, à lui, mais qui, donc c'est un mode d'existence qui vient influencer également nos modes d'existence également, qui s'insèrent dans nos modes d'existence. Et pour le cas du magnétoscope, c'est véritablement ce mode d'existence de l'objet technique, cette possibilité donc de toucher aux images du cinéma en particulier, hein, permet ici de changer un mode d'existence de notre rapport à l'image, bien entendu. Donc l'objet technique, son ontologie, on pourrait dire avec Simondon, nous permet ou comment je pourrais dire, a une influence sur nos propres modes d'existence, et ici c'est notre rapport à l'image. Donc c'est des choses que j'ai déterminées, que j'ai définies dans des articles, donc, et que donc, je voulais partager avec vous d'abord, hein, sur, pour comprendre un peu ce projet, d'où il vient, et d'ailleurs, donc, les narrations contemporaines aussi, donc il fallait que je marque quand même le coup de la contemporanéité. Le travail de Douglas Gordon, travail donc sur les images qui vient d'abord de cette manipulation à partir d'un vidéoscope, un magnétoscope, pardon, a donné lieu ensuite, vous connaissez peut-être, en 2010, le roman de Don DeLillo, Point Omega, s'ouvre et se termine sur un personnage qui expérimente et témoigne donc de cette expérience des images au ralenti de 24-Hour Psycho. On va juste lire, hein, cette expérience. Comme je vous ai dit, ce magnétoscope a permis un rapport aux images plus intense et qui est extrêmement bien, hein, cette expérience-là, décrite par le personnage de Don DeLillo. C'est la première citation, hein, que vous avez. Donc, c'est le personnage, il est au MoMA, c'est bien dit, au MoMA, 2006, et il est en train d'expérimenter donc l'installation vidéographique de Douglas Gordon. Donc, voici, hein, ce qu'il en dit. Il voulait l'immersion totale, quoi que l'expression puisse vouloir dire, puis il se rendit compte de ce qu'elle veut dire. Il voulait que le film se déroule plus lentement encore, requérant une implication plus profonde de l'œil et du cerveau, toujours que la chose contemplée s'enfouisse jusque dans le sang, dans l'intensité de la sensation, partageant avec lui l'acuité de la perception. Hein? Donc on sent là cette proximité aux images qui vient jouer, c'est un mode de perception des images qui véritablement change évidemment et a une influence sur le déroulement même de notre présence au monde. Hein. C'est un peu ce que fait le personnage. Et dans la suite du récit de Lilo, je ne sais pas tout à fait si c'est le même personnage qui continue, mais l'ambiance, elle, continue. Hein, cette lenteur de la vie, etc. etc. Or, à un moment donné, entre avec lui dans l'installation une femme, c'est l'épilogue donc du livre, et elle lui demande qu'est-ce que ça serait de vivre dans un monde au ralenti, de vivre dans un monde au ralenti. Il lui répond, le personnage, c'est la deuxième citation, si nous vivions au ralenti, le film ne serait qu'un film parmi d'autres. Donc on sent aussi cette importance, hein, de cette disjonction entre une perception, on pourrait dire normale, celle de tous les jours, quotidienne, et celle que nous donne la possibilité de la technique. Donc, cette différence doit être marquée. Ce n'est pas le fait de vouloir entrer totalement dans un monde d'existence, de visionnement, mais véritablement du monde, mais véritablement, hein, garder cette disjonction entre une vision quotidienne, à la vitesse réelle du monde, et cette vision donnée par le cinématographe et ici par le biais ici d'une manipulation, hein, des images. Un peu comme disait Epstein dans L'intelligence d'une machine, c'est un très vieux texte de 1933, si je ne m'abuse. Epstein disait que le cinématographe permettait, hein, ce jeu de remettre en question toutes les lois de la physique. Hein, en faisant reculer les gens, en faisant en sorte que les objets se soulèvent plutôt que de tomber. Donc, toutes les manipulations par le cinématographe, hein, contredisaient tout ce qu'on voyait dans la nature ou toute notre expérience de la nature. Et c'est cette disjonction-là, hein, que Epstein appelait l'intelligence d'une machine, puisqu'il nous approximait avec d'autres lois plus surréel, je dirais, du cinématographe. Donc, il faut garder, hein, cette disjonction-là, et il la marque bien, Don DeLillo, par évidemment, ce passage-là. Donc, voilà en partie, hein, D'où me vient cette idée, cette contemporanéité, donc cette recherche en littérature et cinéma. Bien entendu, je suis pas tout à fait je suis pas le seul du tout hein, à parler de ce rapport intense avec les images les images donc du cinéma en art. Entre autres, Sébastien Rongier l'a fait dans un ouvrage qui s'intitule si Cinématière, art et cinéma. Donc, il a développé le concept de cinématière, et je vais le citer, vous n'avez pas la citation, mais je vais citer un peu ce qu'il entend par cinématière. Ici, c'est un mode de relation esthétique et critique à l'image cinématographique. Donc, la cinématière devient un véritable matériau de travail hein, qu'on peut toucher. Ça rejoint un peu mon idée de toucher une image, une matière d'image, un corps à la fois générique et inachevé, produisant d'autres formes à partir d'un impensé de l'image, producteur de fantômes et donc de récits. C'est un peu le cas, bien entendu, du roman de Patrick Châtelier qui joue avec la cinématière totalement dans un autre, dans un autre registre qui est littéraire et l'écriture, bien entendu. Mais c'est un rapport très étroit et intense avec les images du film de Sergio Leone. Donc là, c'est pas, je peux le dire du côté critique, il ne travaille pas entre littérature et cinéma. Ici, c'est art et cinéma. Donc, comment l'art contemporain s'est approprié cette cinématière et a travaillé avec cette cinématière. Côté critique, le livre comment je pourrais dire, alors, pas l'étoffe de ce qu'il propose. Hein. Il décrit beaucoup d'installations vidéographiques. L'idée à l'origine est très bonne, mais à mon avis, il manque un peu d'éléments théoriques pour poursuivre. Mais c'est un livre très intuitif et descriptif. Hein. Et donc, il faut le lire dans cet esprit-là, puisque certaines des descriptions demanderaient des prolongements là. J'irai un peu plus fouiller, un peu plus approfondir, ce qu'il ne fait pas. Par contre, l'intuition est tout à fait, à mon avis, elle est tout à fait juste, et évidemment, je la reprends, moi, en littérature, bien entendu, cette idée de cinématière, et on va voir aussi cette idée de remake, hein, ce qu'il va parler de remake, avec, entre autres, l'installation de Pierre Huyghe dans les années 90. Bien entendu. Donc, voilà un peu le cadre contemporain et ce rapport plus intense hein, au cinéma. Jean Clédard, dans Les affinités électives, à la toute fin du livre, propose cette idée, mais très, très, très générale. Il disait, il y a une intensification depuis les années 80 de la présence du cinéma, sans le caractériser, hein, ce rapport-là. Alors, c'est ce que je me suis donné un peu comme tâche au début de ma présentation, mais aussi de ma recherche, quand je présente le cadre de ma recherche dans les études contemporaines, c'est évidemment dans ces dimensions-là que je fouille, que je cherche et que j'essaie de présenter cette contemporanéité et cette intensification du rapport à l'image cinématographique. Bien entendu, donc la signification va essayer de définir ce rapport plus intense, ce rapport avec la cinématière, mais en littérature. Bien entendu, j'en parlerai pas. Je ne parle pas des liens entre littérature et cinéma sur le mode de l'adaptation, ce n'est pas tout à fait ce qui m'intéresse, ni de la novélisation. Vous savez que la novélisation, c'est des adaptations à l'envers, c'est-à-dire on part d'un film et on en fait hein, un roman. La plupart des grands films américains ont été reproduits, novélisés en roman, roman souvent assez mal fait, hein, généralement. Ça va tout à fait dans le produit dérivé des films. Hein, mais il y a des novélisations plus intéressantes. Jean Battin, qui travaille en Belgique, a fait un livre sur la novélisation et il donne des exemples beaucoup plus intéressants de novélisation que ceux hein, tirés des grands chefs-d'œuvre ou des grands films américains. Donc, ce n'est pas sur le mode de l'adaptation ni de l'influence. Le concept d'influence ne m'intéresse pas du tout. Hein, pour travailler ça, ni la comparaison, la métaphorisation, tout ce lexique qu'emploie beaucoup Jean Clédère ou Jean-Marie Clair, donc deux spécialistes du rapport entre la littérature et le cinéma. Hein, ils sont toujours en train de dire c'est une métaphore, hein, la littérature reprend métaphoriquement des images, etc. etc. Ça m'intéresse moins ce rapport, je dirais, métaphorique avec le cinéma. Donc, j'ai plutôt. Je travaille plutôt ce rapport-là sous la notion, avec la notion de performatif. Donc, c'est pourquoi la cinéfiction définit hein, un rapport performatif de la littérature au cinéma. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, bon, si vous connaissez, je ne ferai pas un cours là, sur le performatif, ça ne tente pas. De toute façon, vous connaissez. Donc, pour moi, une contemporanéité des études hein, sur. Le rapport entre la littérature et l'image en mouvement, l'image du cinéma, donc doit passer par des considérations théoriques autour de qu'est-ce que c'est que ce geste illocutoire hein, d'appropriation hein, du cinéma. Donc, j'en parle en termes d'actes de visibilité, donc c'est véritablement des actes illocutoires. Donc, il y aurait des énoncés littéraires qui sont proprement des actes de visibilité. Hein. Je reprends la notion d'acte de fiction. C'est Genette qui a réintroduit toutes les considérations assez intéressantes du performatif en littérature, puisque, si vous connaissez bien les théories du performatif, la littérature n'est pas un discours sérieux, donc ne peut pas tomber sous la catégorie du performatif. C'était les thèses de Searle, lesquelles thèses ont été évidemment très rapidement critiqué par Genette en disant non, il y a véritablement des actes de fiction. Juste dire il était une fois, c'est déjà quelque chose. C'est un acte, c'est pas un énoncé qui a, hein, qui est, évidemment, dont le contenu n'est rien d'autre qu'un acte d'introduction à un univers de fiction, etc., etc. Donc je reprends, et là je voudrais pas aller plus loin hein, sur cette notion de performatif, mais je le reprends pour parler d'acte véritablement de visibilité. Ce qui est très important pour moi dans mon moment d'analyse et la constitution de mon corpus également contemporain, c'est que il faut qu'il y ait ce que j'appelle toujours dans cet esprit hein, du performatif, ce qu'on a appelé avant moi, mais que j'ai repris, un pacte cinématographique avec le lecteur. Qu'est-ce qu'un pacte cinématographique avec le lecteur? C'est que les récits doivent donner des indices très clairs de ce rapport au cinéma, hein, de ce qu'on a appelé aussi des tropismes cinématographiques, donc toutes sortes de références très évidentes dans le paratexte ou dans le texte. De rapport du cinéma. Pour moi, c'était une des conditions de l'établissement de mon corpus. Il faut qu'il y ait pacte cinématographique. Il faut pas que ça soit implicite, c'est très explicite. Et dans la plupart des récits que j'analyse et que j'étudie, ce pacte-là est établi assez rapidement. Hein. Donc, Châtelier, par exemple, pas le bon, pas le truand, on ne peut pas rater la référence. Hein. Dans Tanguy Viel, cinéma, c'est très clair. Christine Montalbetti, western, c'est absolument clair dès le départ, dès le titre et dès les premières lignes du roman qu'on est en train de jouer avec le genre cinématographique du western, par exemple. Paris-Brest, encore de Tanguy Viel. On pourrait même aller jusqu'à L'amant de la Chine du Nord, qui est une reprise, hein, évidemment, de L'amant, mais revue par la lorgnette du film Raté selon Duras de Jean-Jacques Hano. Hein, donc, il y a des indices très clairs, soit dans le paratexte ou dans le texte même, hein, des références très explicites à des notions comme travelling, panoramique ralenti, souvent, des acteurs, mais aussi des noms de films ou des noms de personnages qui redupliquent des noms d'acteurs ou des noms de personnages de films, etc. Donc ce premier moment est très, très, très important. Il n'est pas le seul. Bien entendu. Ce qui est important également, c'est que cette volonté d'orienter, d'inciter le lecteur à voir hein, est très très importante également. Il y a beaucoup d'énoncés à travers des romans de Tanguy Viel, Duras, de celui que j'ai nommé Duras, Montalbetti, Châtelier et d'autres, qui demandent littéralement au lecteur de voir avec lui. Hein. Donc, véritablement des, comment je pourrais dire, des énoncés qui introduisent des actes de visibilité. Pour moi, ce caractère explicite, je dirais, de la demande fait partie d'une des conditions pour constituer mon corpus d'œuvres. Hein. Chez Montalbetti, ça passe évidemment par des. Christine Montalbetti a écrit aussi un autre roman, je travaille surtout avec deux. Western, publié en 2005, et Journée américaine, qui reprend donc Nuit américaine, inversée en journée, un jeu d'inversion avec le cinéma, reprend le style du road movie tout à fait à l'américaine, et enfin un roman, et demande au lecteur de voir, hein, très souvent, hein, et même parfois joue beaucoup avec la métalepse du lecteur. Hein. Puisque la métalepse permet d'introduire le lecteur comme s'il était face à des images cinématographiques, c'est-à-dire avec toutes les possibilités de hors-champ et du son venant par derrière, etc. Donc il y a véritablement un effet sensoriel, je dirais presque, de positionnement du lecteur en jouant sur la métalepse. C'est peut-être celle qui le fait le plus. Christine Montalbetti. Donc pour moi, ce sont des éléments importants et qui permettent ces actes de visibilité, hein, qui, comment je pourrais dire, incitent le lecteur, l'amènent finalement à reconnaître ses actes. Hein. C'est comme un petit, hein, vous savez que le performatif travaille sous la ritualisation. Hein. Il faut qu'il y ait un rituel pour que le performatif puisse fonctionner. Or, ce pacte est une forme de ritualisation. Hein, pour que des actes de visibilité puissent hein, opérer, hein, si je veux dire. C'est véritablement d'un point de vue théorique comme ça que j'essaie de penser. Et ce qui me permet là de sortir hein, de la dimension, oui, c'est une métaphore, etc. J'en parle véritablement avec un langage théorique qui me permet justement d'éviter plutôt ces notions un peu floues, métaphoriques, d'affinité. De rapprochement, etc. Là, il y a véritablement une valeur, je dirais, plus forte. Un deuxième moment dans la cinéfiction, je travaille beaucoup les scènes également, donc qu'on pourrait appeler la part iconique du langage, les scènes descriptives, qui suivent ou qui reprennent véritablement des plans de cinéma, hein, travelling, panoramique, avant, arrière, etc., plein de scènes comme ça. C'est ce que j'appelle des diagrammes cinéma, en reprenant la notion sémiologique, celle de Peirce, entre autres, que Peirce a développée, de diagramme, c'est-à-dire il y a véritablement là ce qu'on appelle un rapport de proportion entre les images, les personnages, les choses et le point de vue. Qui calque ces rapports de proportion qu'on voit véritablement à l'image. Donc ça, c'est une deuxième dimension. J'en ai remarqué évidemment plusieurs, j'en fais ressortir plusieurs dans les romans qui m'intéressent, entre autres. C'est pas tout à fait ça. J'ai développé ça dans plusieurs autres conférences. C'est pas non plus ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est un troisième moment de la cinéfiction. Et c'est ce rapport de réappropriation d'images connues, hein, soit de scènes connues du cinéma ou de genres connus, hein, plus largement de genres comme le western, ou ici, bon, ici c'est une scène western, mais d'un film en plus et d'une scène en particulier, hein, du film. Et il ne s'agit pas là de reproduire un diagramme des relations entre les plans, mais de développer des potentiels de l'image que l'image cinématographique n'a pas développé ou a laissé en suspens. Toutes ces scènes où on remarque c'est des expériences finalement de spectateurs, tout à fait, hein, quand on est au cinéma. L'image nous donne beaucoup de choses à voir, ne développe que certaines possibilités, bien entendu. Or, il y a des romans qui jouent, hein, sur des possibilités, hein, non développée par le film ou par les images. Hein? Ou on peut même aller jusqu'à l'idée d'impensé d'image, on verra hein, ce que ça veut dire. C'est un troisième moment plus intéressant, et c'est là que la notion de remake intervient, beaucoup plus que dans les deux premiers moments de la signification. Donc, je reprends très rapidement cette notion de remake de Sébastien Rongier. Hein, c'est véritablement pour lui, en art, il a remarqué tous ces refaire le cinéma par l'art contemporain et explorer des possibilités d'image qui n'avaient pas été explorées par des films. Hitchcock a connu, hein, disons, son heure de gloire dans l'art contemporain avec Pierre Huyghe, avec Douglas Gordon et bien d'autres, en passant par Jim Campbell, Stan Douglas, Laurent Fievet, etc., qu'on connaît bien. Donc moi, je reprends ça et je relis. Si je peux encore peut-être 5 minutes là, parler peut-être certaines scènes. C'est dans Palbon Paltrua, hein, c'est un jeune homme qui assiste à la mort d'un de ses amis, Jess et ses deux parents. Et ce personnage-là s'appelle Lidio. Ses parents, pas ses parents, mais c'est son ami et ses parents vont se faire tuer par un personnage qui s'appelle la Brute, dont on ne sait pas d'où elle vient, mais on connaît les motifs, c'est un meurtre commandé. Donc toute l'ambiguïté du récit, c'est est-ce que Lydia a vu réellement ou non cette scène de crime? Il ne l'a pas vu réellement, il l'a plutôt vu cinématographiquement, puisque même s'il est inséré dans un paysage et à une époque, hein, du western, donc on est à la fin du 19e siècle. Le père George Butler meurt en 1895, donc c'est l'année, hein, c'est le début du cinéma. Donc il est possible qu'il ait vu des images dans la cabane hein, d'un trappeur. Et suite donc à cette scène, il ressort de la cabane tout étourdi et un peu émerveillé par ce qu'il vient de voir dans cette cabane-là, puisqu'il y a une très grande identification des images qu'il a vues avec des personnages qu'il connaît dans le réel. Or, la scène qu'il a vue ou la scène qu'on voit avec lui dans la cabane, c'est les 9 minutes du film, c'est l'arrivée de la brute dans le film de Léoné. Hein? Donc, ce rapport au cinéma est marqué par plusieurs indices très, 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 très évidents. Donc, le pack cinématographique est clairissime. Beaucoup de jeux, donc, avec le ralenti, etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est que les 9 minutes de film sont déployées sur une centaine de pages. Donc, Patrick Châtelier s'amuse à ralentir, mais au maximum, le film. Par exemple, entre la dégaine du pistolet au moment du duel, puisqu'il va se faire tuer, non? George Butler se fait tuer par la brute qui est venue, évidemment, accomplir son contrat. Au moment de la dégaine et la décharge et sa mort, il se passe environ une douzaine de pages. Hein, c'est très long. Donc, chaque geste est étudié minutieusement par Patrick Châtelier et déploie des possibilités infinies de récits, de possibilités. On va en lire juste deux. On va terminer là-dessus avant d'arriver à quelques hypothèses. C'est la quatrième citation. Une brusque douleur, ici c'est le personnage, hein, George Butler, le père, donc qui a très peur pour ses enfants et sa femme qui sont dans la scène face à la brute, hein, si vous vous souvenez un peu du duel du regard. Donc une brusque douleur l'incite à ramener sa jambe raide dans l'axe de la table. En effet, si on voit dans le film, à un moment donné, il ramène sa jambe malade sous la table. C'est ce moment-là. Pour se dérober au regard de la brute, il observe sa femme. En effet, ce qui arrive dans le film. Or, il continue. L'épouvante lui va bien. Ses prunelles étincellent et la sueur colle joliment ses cheveux en défi sauvage. Ses doigts suspendent de gestes d'effleurer sa cuillère. Son sang métisse vibre de tous ses pores. Un sang qui s'échappait rageur pour courir les bois au début de leur mariage. Il se souvient du soir où il a voulu la forcer, etc., etc., etc. Hein, il déploie hein, juste dans ce geste-là un moment de tension. Hein, il est en train, on pourrait dire, de le de le magnifier par l'imaginaire, bien entendu, en déployant toutes les possibilités. C'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il va répéter à travers aussi bien le regard de George Butler, de la mère et du garçon également, dans ce qu'il va appeler un poker spaghetti. Tout le monde se regarde et tout le monde a ses idées. Bien entendu, le film ne développe aucune de ces idées-là. On reste présent dans la cuisine. Le roman déploie tous les récits possibles. Donc, évidemment, ça fait un récit élargi, ralenti, et évidemment, c'est toute une façon de voir, évidemment, de voir apparaître, comment je pourrais dire, toute cette production d'images que produisent les images en nous. Derrière chacune des images, il y a des potentialités d'images, presque dire infinies, avec lesquelles joue Patrick Châtelier. Beaucoup d'hypothèses aussi, donc il joue sur cette idée qu'on aurait un stock de scénarios possibles, évidemment, qu'on déploie au moment de percevoir les images. Il joue beaucoup sur cette idée-là. Chaque image possède en soi ou est l'instigatrice de nombreuses hypothèses. Donc c'est un rapport, on pourrait dire, figural à ces images-là, c'est-à-dire une figure en devenir, ce que j'appelle aussi. C'est la deuxième, la notion de diagramme permet également de parler de cette, comment je pourrais dire, de ce rapport figural aux images, puisque le diagramme pensé tel que Peirce le pense est aussi l'ouverture vers des possibilités d'image. Le diagramme. Là, je referme là-dessus, sinon ça serait beaucoup trop long. Et je vous invite, je voulais le lire un peu, peut-être. Une scène seulement, c'est celle de la page 115, quand le personnage meurt. Voilà, je vais juste lire à la page 115 ici. Il va s'amuser, bien entendu, à multiplier les points de vue possibles sur la scène. Je lis. L'impact, donc à partir de là, l'impact. Il vient de recevoir la balle, George Butler. L'impact donne l'impression de recevoir un sabot de cheval dans le ventre. Malgré le choc, George Butler veut tenir son geste. Il cherche à le conclure en fluidité, souplesse. Mais le geste se désagrège. Il branle et part en une autre sorte, suite de tremblés, de pics, tarentelles, locomotion folle, un fourmillement l'agite, juste avant la douleur qui met un instant à venir lorsqu'un horrible bec lui arrache la poitrine. Il presse la détente et la balle va se figer dans une poutre, frôlant au passage le cercle d'une mouche qui s'écarte puis le reforme. En vol, les mouches ont l'habitude de tracer des cercles ou des carrés, bifurquant plusieurs fois pour revenir à leur point de départ, et cela dessine un œil qui regarde d'en dessous. Georges, depuis cet œil, doucement se voit mourir. Il voit son crâne à peine retenu par l'attache de la nuque, ses cheveux en broussaille, ses bras écartés en signe d'il ne sait quoi, une de ses bretelles glissée. Il voit son geste anéanti comme s'il était un petit enfant qui voulait le reproduire, etc., etc. Il va partir sur toutes deux pages de description de cet œil qui voit la scène de différents point de vue, et c'est une scène où il est en train de tomber, évidemment, il est en train de s'effondrer. Donc, cette multiplication des points de vue, ce regard un peu panoptique reprend ce qu'on connaît au cinéma, l'effet bullet time, c'est-à-dire c'est un effet où on filme un mouvement de corps au ralenti qui a été photographié dans sa simultanéité, et on peut se promener dans la scène et voir la scène de différents point de vue, et le terme bullet time convient très bien ici puisqu'il s'agit du temps du projectile, bien entendu. Donc, il est très très bien reprise par. Donc, on pourra parler dans la discussion de où est-ce que ça nous mène toutes ces possibilités d'image, à quoi ça sert, est-ce que c'est qu'un jeu formel? Or, je pense que non, et on pourrait donc en discuter un peu plus loin. Ça fait partie de tout un projet très contemporain d'une anthropologie du visuel, c'est-à-dire un rapport interrogé et travailler notre rapport, évidemment, aux images, et surtout intensifier donc cette compréhension de notre rapport aux images et avec toute l'impensée avec laquelle elle nous laisse, d'une certaine manière.